point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Henri Moiset.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, point d'histoire a pour sujet « Prisonnier de guerre, une mémoire occultée ». Pourquoi avoir choisi ce titre ?
Oui, il est vrai que c'est un peu inhabituel. Quand on parle de mémoire sur la Seconde Guerre mondiale, on évoque souvent les combats. On rappelle la trahison de Vichy et on glorifie la résistance. Mais peu ou très peu de mémoire sur les prisonniers de guerre. Et je crois qu'il y a là une injustice à plusieurs titres. D'abord injustice parce qu'ils se sont battus, et bien battus. Injustice parce qu'ils ont beaucoup souffert pendant 5 ans. Et cette injustice n'a pas été réparée à leur retour. Bien au contraire, ils ont été victimes d'une forme de rejet, insidieux certes, qui ne leur a pas permis d'exposer tout de suite leurs souffrances et de réintégrer la société française comme ils le croyaient. Presque on leur reprochait leurs 5 ans de captivité, quand on n'allait pas jusqu'à supposer que ces 5 ans avaient été relativement agréables. Alors je crois qu'il est temps de mettre fin à ce genre d'erreur, d'injustice, et d'essayer de dégager quelques faits essentiels pour rétablir, sinon en totalité, du moins par quelques repères solides, cette histoire douloureuse de près de 2 millions de Français.
Oui, alors justement, il y a eu, ce que vous venez de dire, près de 2 millions de prisonniers français envoyés en Allemagne.
Oui.
Et alors pour l'Aveyron, il y en a eu combien ?
Alors, on dit toujours près de 2 millions, avec quand même une évolution quantitative qui a été conduite à la baisse. En effet, c'est 1 800 000 au tout début, en juin 1940. Puis, au cours des années de captivité, certains ont pu bénéficier d'une libération pour différentes raisons, pour des raisons professionnelles, pour des raisons de santé. Si bien que fin 1943, début 1944, c'est entre 1 500 et 1 600 000 prisonniers français, et non plus 1 800 000. Pour l'Aveyron, c'est 9 401 prisonniers. Sur ces 9 401 prisonniers, 7 500 environ sont restés jusqu'en mai-juin 1945. 200 se sont évadés et ont réussi. 183 sont morts en Allemagne ou sont portés disparus. Et 1 500 environ ont été libérés, évidemment conformément à ce que j'ai dit il y a un instant, pour des raisons médicales ou pour des raisons professionnelles.
Alors je vais lire la lettre d'un de ces Aveyronnais qui a été prisonnier en Allemagne. Il s'agit d'Alban Dor, agriculteur de Segonzac. Donc il raconte comment il a été fait prisonnier. « Nous sommes restés environ 15 jours dans le secteur de Dunkerque. Nous nous sommes rendus compte que nous étions bien prisonniers, abattus, sans nourriture réelle, dans l'improvisation du quotidien. Ce fut dur et on ne savait pas quel serait notre sort. C'est à pied d'abord, avec des étapes de 30 à 50 km par jour, qu'on se mit en mouvement par la Belgique dévastée. Puis on nous embarqua sur une péniche, sans doute en Hollande. La population locale semblait très triste en nous voyant ainsi, et dans certains villages, on nous a donné des gâteaux malgré nos gardiens parfois brutaux. Enfin, en Allemagne, ce fut le voyage en train. Les conditions étaient tout aussi inhumaines. Nous sommes restés 3 jours, à 80, par wagon, sans véritablement manger ni boire. Ma seule consolation fut d'être avec des connaissances du pays. Reverbel de Vabre, Biraud, le coiffeur de Saint-Afrique, Boud de Coate, Armand, le charron de Vabre, et le commis du magasin Portalier de Saint-Afrique, dont j'ai oublié le nom. Comment se fait-il qu'il y a eu un transfert des prisonniers depuis la France en Allemagne ? Comment se fait-il qu'ils n'aient pas cherché à s'évader ?
Alors, oui, c'est une question centrale. Et je crois qu'on ne peut pas l'isoler du contexte général de cette guerre, cette drôle de guerre d'abord, et de la débâcle qui a suivi en mai-juin 40. La France est sous le choc, peu importe les combats et la dureté des combats. L'Allemagne a une victoire qui semble rapide, qui se concrétise rapidement. La France est sous le choc. On parle de déroute, on parle de débâcle. Et cette débâcle, elle est à la fois morale, elle n'est pas que militaire, elle est morale et elle est politique. D'où l'appel le 16 juin, en plein désordre, en plein exode, à Pétain qui constitue son gouvernement. Et le premier acte, première annonce du maréchal Pétain, c'est « Je demande un armistice ». Ce discours du 17 juin a un effet dévastateur. Alors que l'on se bat encore, même s'il y a eu Dunkerque, même s'il y a eu la Somme, même s'il y a eu la bataille de l'Aisne, Paris n'est occupé que le 14 juin, donc on se bat encore le 16, le 17, le 18 juin. Et ce n'est pas l'appel de Gaulle qui change quelque chose, on se bat toujours. Et le fait que Pétain ait demandé un armistice va faire croire que c'est la fin de la guerre, que c'est fini, qu'il faut effectivement déposer les armes. Et dans ce traumatisme général, eh bien nos troupes vont, à quelques rares exceptions, se rendre. Et c'est par milliers, par centaines de mille, que des prisonniers français sont récupérés par l'armée allemande. Il faut savoir qu'entre le 17 juin, demande d'armistice, et le 25 juin, date d'application de l'armistice avec l'Allemagne et l'Italie, qui entre-temps nous a déclaré la guerre, c'est un peu plus de la moitié des prisonniers qui sont faits dans cette période. Alors, au départ, les soldats sont regroupés dans des camps d'internement, entre guillemets, tout à fait fortuits, mal organisés. Et ces camps sont un petit peu partout sur la zone des combats. La situation est détestable, ça peut durer quelques jours pour certains, quelques semaines pour d'autres, parfois même un mois, voire un mois et demi. Donc tous les soldats ne partent pas, prisonniers, ne partent pas vers l'Allemagne en même temps. Et pour l'Allemagne, c'est un problème de gestion qui les dépasse. Ils ne s'attendaient surtout pas à avoir 1,5 million, 1,8 million hommes à gérer. Et donc, ce que raconte le prisonnier d'or est assez intéressant, c'est progressivement, d'abord à pied, que l'on va vers une gare, sans nourriture, sans boisson, sans équipement adapté à ces longues marches. Puis on prend un train, dans des wagons à bestiaux, entassés, sans aucun ménagement. Et puis, c'est après quelques centaines de kilomètres, parfois, l'arrivée en Hollande, et où on prend une péniche qui va remonter le Rhin, ou le descendre, selon les endroits où l'on a été fait prisonnier. Et puis ensuite, arriver dans un port fluvial, c'est à nouveau des marches, ou encore un train qui va disperser ces prisonniers, parfois jusqu'aux limites du Reich, c'est-à-dire l'ancienne Pologne. Et c'est le cas d'Alban Dor, qui va se retrouver dans la toute lointaine Poméranie. D'où le choc terrible, d'autant qu'il faut savoir que ces prisonniers ramassés ou qui se sont rendus exténués, qui parfois ont été maltraités, n'ont pas eu la possibilité d'avertir la famille. Et d'où déjà cette souffrance morale, psychologique, est-ce que la famille sait où je suis? Est-ce que je suis porté disparu? Est-ce qu'ils ne me croient pas mort? Et il faudra attendre des mois pour que sous l'égide de la Croix-Rouge, des premières cartes circulent, des informations arrivent, et que les familles soient, sinon bien informées, du moins passablement rassurées de les savoir vivants.
Alors en Allemagne, dans les stalags, quelles étaient leurs conditions de vie ?
Les conditions de vie sont liées à l'improvisation que je viens de citer. Car autant de gens qu'il faut en peu de temps recevoir, ces conditions de vie sont déplorables. D'où l'Allemagne va décider de les stocker, ces prisonniers, dans les lieux de fortune. Ça peut être un camp, du moins tel que nous le représentons, des baraquements en bois avec des barbelés autour, mais où rien n'est tout de suite aménagé. Il n'y a pas de réfectoire, il n'y a pas de sanitaire. C'est comme on peut. Quelquefois, c'est une ancienne usine désaffectée. Ça peut être d'anciennes casernes. Tout dépend des conditions, je dirais, géographiques de l'affectation. Si bien que s'il y a un camp type, c'est un espace clos, car progressivement il y aura des barbelés partout. C'est un espace sans liberté. On est contrôlé. Le prisonnier est un numéro. On le photographie. Il est numéroté. Et surtout, c'est un lieu de frustration terrible. Et ça, on n'a pas toujours conscience de l'importance de ces frustrations et de ces privations. Et ça, c'est commun. Mais après, les conditions elles-mêmes peuvent varier selon que l'on est dans l'extrême est du Reich, selon que l'on est en Rhénanie, selon que l'on est en bord de mer ou à proximité d'un fleuve, selon que l'on est dans une montagne, selon que l'on est dans une région typiquement rurale, très isolée, ou selon que l'on est parfois en bordure d'une grande ville ou dans une forme de banlieue industrielle et urbaine. Donc il y a des conditions extrêmement variées et chaque vécu peut être, dans un fond commun, facile à comprendre, très différent. Ce qui est commun, ce sont les privations, je le répète, c'est la souffrance physique en cas de maladie, c'est le risque de mort réel par manque de soins, ce sont aussi, c'est la faim, c'est la soif. Comment peut-on imaginer que des camps qui ont 15 à 20 000 prisonniers puissent satisfaire les besoins quotidien en hygiène, en boissons et autres, ou en nourriture d'autant de monde. Alors il faut savoir qu'il y avait une soixantaine de stalags, ce qui fait donc des milliers de gens par stalag, qu'il y avait 14 oflags pour les officiers, et que ces hommes de troupes, à part les officiers évidemment qui sont protégés et qui ne travaillent pas, seront progressivement affectés à des lieux de travail que l'on appelle des commandos et qui peuvent être une ferme, qui peuvent être un atelier, qui peuvent être une usine. Et disons que là encore, les conditions de travail vont dépendre des lieux de ces affectations. Étant bien entendu que malgré les conventions internationales qui en théorie protègent les prisonniers, ils pourront être parfois affectés à des usines qui ont une valeur militaire ou d'armement, ce qui était contraire, je dirais, aux conventions de Genève.
Avant d'en venir au travail, quand même, quel rapport ces prisonniers avaient avec leur famille ?
Le lien qui s'établit sera d'abord épistolaire. La famille reçoit une carte avec des phrases en allemand souvent, mais avec une traduction française, qui permet, dans une carte préétablie, aux prisonniers de marquer quelques mots. Je suis prisonnier, je vais bien. Enfin, il y a des formules stéréotypées qui ne permettent pas, évidemment, en théorie, de savoir où est le prisonnier. Ces lettres sont contrôlées, car en dehors des cartes préétablies, il y a un formulaire qui va s'établir et qui est précis au point de ne contenir que 26 ou 27 lignes, pas une de plus. Et c'est allemand de ce point de vue-là. Ces lettres circulent assez bien, même si leur nombre est limité. Le deuxième aspect, ce sont les colis. Progressivement, mais surtout à partir de 1941, quand le dispositif lui-même du côté allemand sera opérationnel, les familles pourront envoyer aux prisonniers des colis. Alors, colis eux-mêmes quantifiés et codifiés, chaque mois on peut envoyer 2 colis de 1 kg, et chaque 2 mois, on peut envoyer un colis de 5 kilos. Ces colis, majoritairement, arrivent. Il y a beaucoup de retard, mais ils arrivent. Alors, on peut s'étonner que les familles aient fait beaucoup d'efforts pour envoyer ces colis. Alors, que met-on dans le colis ? De tout. de tout ce que le prisonnier semble avoir besoin. Il a besoin de lacets, il a besoin de crayons, il a besoin de papier, il a besoin d'éléments autres que la nourriture. Mais c'est quand même la nourriture qui est l'essentiel de ces envois.
D'ailleurs, à propos de nourriture, je vais lire une lettre de René Arnal de Saint-Rome-de-Cernon, une lettre du dimanche 20 février 1944, et qui parle justement d'un colis qu'il a reçu. « Rien reçu de vous depuis ma dernière carte en fait de nouvelles, mais hier soir j'ai eu votre colis du 24 janvier, et je suis restée ébahie lorsque, en l'ouvrant, j'ai aperçu le roquefort entier, et d'ailleurs en aussi bon état que lorsque vous aviez confectionné le colis. » Avec mes deux camarades, avec qui je prends toujours mes repas, nous l'avons attaqué au souper hier soir, et je dois vous féliciter pour votre choix. Vous l'aviez bien sondé, car il est fameux, et nous allons nous régaler pendant quelques jours. D'autre part, dimanche dernier, nous avons mangé la boîte d'anguilles reçue dans le colis précédent, et là encore, nous nous sommes fait un régal. C'est excellent, et je dois bien avouer qu'il a fallu que je sois prisonnier pour manger cette sorte de reptile aquatique. » Ah, je sens bien que vous ne m'oubliez pas, et vous faites l'impossible pour me régaler et me faire plaisir. Pensez qu'à 26 ans, je vous donne encore tant de soucis et de peines, c'est affreux. René Arnal, donc de Saint-Rome-de-Cernon. Un petit commentaire ?
Oui, la satisfaction du prisonnier est évidente, et on retrouve dans les courriers qui suivent la réception du colis toujours la même expression de joie parfois. C'est aussi un moyen pour le prisonnier de rassurer la famille. Il y a un non-dit, évident. On ne parle pas de ce qui pourrait affoler. On amplifie le bon côté des choses. On essaie donc à tout moment de rassurer. Mais il est vrai que pour le prisonnier, la coupure avec la famille est durable, même s'il ne savait pas que ça va durer aussi longtemps. Cela veut dire aussi qu'il y a une souffrance réelle pour les pères de famille, par exemple, qui ne voient pas grandir les enfants. Il y a aussi la peur pour les hommes mariés que la femme se lasse et les quitte. Il y a cette souffrance-là qui fait aussi partie de cette vie de prisonnier. Il y a aussi l'inquiétude économique. Que devient la propriété? Que devient le commerce, si l'on est commerçant? Que devient toute cette économie dont on est complètement séparé, coupé, et sur laquelle il n'y a pas d'information? D'autant que ces prisonniers sont l'objet soit d'une désinformation de la part de l'Allemagne, par un bulletin fabriqué en Allemagne, en français, qui s'appelle le Trait d'Union, mais qui n'informe pas. Qui essaie évidemment de faire garder le moral aux prisonniers, de le stimuler, de l'inciter à aller travailler, le cas échéant, mais qui ne répond pas à ses attentes. Et puis il y a aussi la partie propagande. Ça peut surprendre, mais Vichy a vis-à-vis de ses prisonniers une idéologie, une pensée, avec arrière-plan politique, où il tente de réutiliser le malheur de ces prisonniers à des fins de politique intérieure. Et donc, il y a là tout un microcosme pour le prisonnier, une souffrance diverse, une souffrance physique, qui fait que parfois, une bonne façon d'échapper à la préoccupation, aux idées noires, eh bien, c'est de trouver une occupation. Et les gens ne comprennent pas parfois que si le prisonnier accepte de travailler, c'est pas parce que ça lui fait plaisir, c'est que ça lui change les idées.
On va faire une pause musicale avec une chanson de Rita Ketty, « J'attendrai ton retour ».
Chez l'oubli. Alice, le feu s'éteint, l'ombre se glisse dans le jardin, l'horloge tisse des sons très lents, je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains, et dans ma porte, j'écoute en vain, hélas plus rien. Plus rien ne vient. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. J'attendrai.
Moisé, on a commencé à aborder la question du travail des prisonniers de guerre, mais est-ce que le fait qu'ils travaillent pour les vainqueurs ne s'apparente pas à de la collaboration ?
Oui, si. Je crois que la question est parfaitement posée. En effet, on pourrait imaginer que le prisonnier de guerre qui accepte de travailler, ou qui travaille pour l'Allemagne, est devenu un collaborateur. Alors, précisons d'abord ce que signifie le mot collaboration. Ça supposerait une adhésion aux valeurs de l'Allemagne hitlérienne. Or, il n'est absolument pas question de traiter les prisonniers de collaborateurs dans ce sens-là. Je reviens à cette idée que j'ai lue dans une lettre d'un prisonnier où il écrivait « Si l'on ne veut pas de préoccupations, il faut des occupations ». Et je crois qu'on a là la première des clés. Le prisonnier travaille, est affecté à un travail, et ça lui permet déjà de sortir du camp. Il est contrôlé, mais il dispose à ce moment-là d'une relative liberté. Cette liberté, elle est réelle s'il rejoint un commando. Alors le commando, ça peut être une ferme, toute petite, une ferme familiale, où il vit avec des vieux, souvent, puisque les hommes sont majoritairement eux-mêmes dans les armées allemandes. Les conditions de vie peuvent être relativement, évidemment, plus agréables que dans le camp, ne serait-ce que la partie nourriture. Travailler dans un commando urbain a des avantages. Ça peut être un artisan, une petite usine, un atelier, ce qui permet d'aller et venir. Si l'on est affecté à un commando municipal, entretien de la voirie par exemple, ramassage des ordures, cela permet d'avoir un contact. Si l'on est dans un commando industriel, une grande entreprise, là déjà la condition n'est pas la même. On peut être soumis à des horaires très draconien, à une surveillance constante et exposé même à des dangers, soit d'accidents, et il y en a eu, soit à des bombardements. Donc, rappelant cela, quel est l'avantage pour le prisonnier ? Une fois sorti, il peut améliorer son ordinaire. Il peut aussi gagner un petit peu d'argent, mais c'est une monnaie, notamment dite monnaie de camp, qui ne permet pas d'acheter n'importe où. C'est un usage extrêmement limité. Ça lui permet, dans certains cas aussi, par échange, mais un échange très défavorable, d'envoyer à sa famille quelques marques allemandes qui eux-mêmes seront transformées en monnaie française, en francs. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas le souci de la rentabilité qui peut être essentiel, c'est bien le fait de sortir du camp, de faire autre chose, de ne pas se préoccuper toujours d'avoir les idées noires, ou tout au moins de les chasser. Il est vrai que cela pose un problème. Pourquoi n'ont-ils pas massivement utilisé ces temps de liberté que représentait ce moment de travail pour s'évader? Alors, première chose, c'est pas facile. Imaginons nos jeunes Français, soldats prisonniers en Allemagne, à des centaines, voire à des milliers de kilomètres, au fond du Reich, qui n'ont pas de papier, qui ne connaissent pas l'allemand, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de boussole, qui n'ont pas de tenue vestimentaire civile, puisqu'ils sont souvent avec les vêtements militaires qui se délabrent. Comment pouvaient-ils envisager sereinement de s'évader avec le système policier allemand où ils peuvent à tout moment être repris? Et comment imaginer des gens qui déjà n'ont pas les éléments matériels pour trouver leur route, franchir des régions de marécages, des fleuves, circuler en ville sans avoir la connaissance même de la géographie? Souvent, ils avaient du mal à se rendre compte où ils étaient. Donc, ne faisons pas, et il n'y a pas de réseau. Les réseaux d'aide aux prisonniers évadés se construiront peu à peu, surtout au moment vers les frontières avec la France, le Luxembourg, la Belgique, voire des pays d'Europe centrale. Mais ce sera extrêmement difficile, d'où très peu ont tenté l'aventure. Et puis, ne pas s'évader de son lieu de travail, c'est à garder l'espoir qu'on passera à travers maille d'une aventure complètement désastreuse et dramatique. Car s'évader et être repris induit une sanction. La sanction, c'est l'envoi dans un camp de représailles, Ravaruska, en Ukraine. Il faut oublier, donc on s'éloigne encore de l'Europe de l'Ouest, c'est encore plus loin, c'est un camp d'une dureté extrême, qui n'est pas un camp de concentration, qui est un camp de représailles, mais qui reste dans les mémoires collectives, et tous ceux qui y sont passés en ont témoigné, d'une inhumanité forte. Et pour ceux qui refusaient de travailler, car il y en a eu, il y avait un autre camp, tout aussi difficile, mais celui-ci en Pologne, le camp de Kobierzyn, et un Aveyronnais, un Saint-Africain, Georges Galzin, qui est toujours en vie, a, par refus de travail, été condamné au camp de Kobierzyn, où il a passé de longs mois de souffrance, d'isolement, de privation de douleur, car dans ces camps, non seulement on est mal nourri, non seulement on est maltraité, non seulement il n'y a pas d'hygiène, et surtout pas d'eau, mais en plus, les gardiens s'ingénient à retarder les colis, voire à détruire les colis. Le prisonnier est devenu un pestiféré, quelqu'un que l'on maltraite vraiment.
Près de 2 millions d'hommes qui constituent l'élite et le meilleur de la jeunesse française sont prisonniers. La France ne peut se relever qu'avec leur concours. L'Allemagne, de son côté, ne peut envisager de rendre ses prisonniers que si un intérêt commun franco-allemand se dégage d'une manière claire. Un premier pas a été fait. Des pères, des frères de familles nombreuses vont revenir. Les internés en Suisse sont libérés. L'intérêt commun des deux pays impose la collaboration pour la grande reconstruction. Le principe en a été fixé à Montoir, lors de l'entrevue du chancelier Hitler, du maréchal Pétain, de M. Ribbentrop et de M. Pierre Laval. C'est dans l'esprit public que cette politique doit trouver son expression sincère. C'est par la confiance que la France fait unanimement au maréchal Pétain qu'elle doit trouver sa traduction.
Henri Moiset, on vient d'écouter un discours de Scapini, qui était ambassadeur des prisonniers de guerre, un discours qui date du 4 décembre 1940.
Oui, et c'est un discours d'une très grande richesse pour ceux qui veulent comprendre la période. Je n'approuve pas ce qui est dit, hein, mais ce qui est dit est intéressant et pour nous un canevas qui enrichit, je dirais, le propos. Dès le début, le régime de Vichy va prendre en considération ce problème des prisonniers. On peut l'admettre sur le plan tout à fait humain. Pétain est un militaire et trouve évidemment que la souffrance imposée à ce 1 800 000 prisonniers est insupportable et qu'il appartient à Vichy à trouver une solution. Mais se pose le problème des solutions, justement, qui vont être apportées. D'abord, premier point, contrairement à ce qui se fait, les prisonniers français restent sous le lien et l'autorité de la France. Alors qu'il est une règle, un prisonnier est mis sous la protection d'une puissance neutre. Eh bien, Vichy a voulu garder la même mise sur les prisonniers français. On pourrait considérer cela comme une bonne démarche, un bon sentiment. En fait, non, car en instaurant cette ambassade française auprès de l'Allemagne, chargée des prisonniers de guerre, Vichy s'est placé dans une situation de marchandage et donc d'infériorité. Car à partir du moment où on veut protéger les Français, il faut donner il faut faire des concessions à l'Allemagne. Et l'Allemagne va profiter de cette erreur pour, par exemple, imposer à la France la relève, bon, qui n'a pas marché. Mais chacun se souvient de cet échange pour trois jeunes susceptibles d'aller travailler en Allemagne. Un prisonnier français serait libéré. Ça n'a pas marché parce que les jeunes n'ont pas voulu partir travailler en Allemagne. Donc la relève a échoué. La conséquence, c'est que la relève ayant échoué, l'Allemagne nous a imposé le STO, qui n'a plus rien à voir avec les prisonniers, mais qui a été une contrainte ô combien dramatique. Autre élément, ces prisonniers deviennent un enjeu de nos relations avec les nazis. Et de concession en concession, Vichy a fait de ses prisonniers un enjeu politique, mais de politique intérieure. Par exemple, on a présenté la souffrance des prisonniers comme un moyen de rédemption, de reconstruction de la France. Les prisonniers ne demandaient rien du tout, sinon d'être libérés. Les autres éléments ont été que ces prisonniers qui ignoraient tout de ce qui se passait et qui ignoraient surtout qu'ils étaient un enjeu, ont été instrumentalisés à leurs dépens. Et cela leur a d'ailleurs été reproché, alors qu'ils n'y étaient pour rien, à leur libération. Et puis, forcément, dans la mesure où ils sont un enjeu, ils vont devenir un élément de compromission et certains, évidemment, vont ne vont pas comprendre ce qui va leur arriver et l'angoisse, évidemment, perdurera, si bien que lorsqu'on leur parle de relève, ils n'y croient plus, ils n'ont pas été dupes, mais il faudra attendre 43 pour que cette prise de conscience arrive, et lorsqu'on leur proposera ce qu'on appelle la transformation, c'est-à-dire l'engagement de devenir un homme, un travailleur libre, donc échappant à sa situation de prisonnier, majoritairement ils vont refuser. Et il n'y a eu que très peu de prisonniers français qui aient accepté. Ni les Alsaciens lorrains, particulièrement sollicités, ni les Bretons, pour des raisons de politique intérieure, ni les Corses, en liaison avec l'Allemagne, avec l'Italie fasciste, n'ont majoritairement joué le jeu de la transformation. Donc, cet enjeu politique voulu par Vichy s'est retourné contre les prisonniers qui n'y étaient pour rien, a renforcé la soumission de Vichy à la politique de collaboration et a été néfaste à l'image même qui en a découlé pour les prisonniers.
À propos donc de la relève, René Arnal, toujours de Saint-Rome-de-Cernon, écrivait le dimanche 9 août 1942 « Ma chère Mad, tu es étonnée que je ne vous parle pas de la relève. Pourquoi vous aurais-je donné des illusions en vous parlant d'une question qui n'est tout simplement qu'un mythe ? Nous sommes bien placés pour le savoir. Les portes des commandos restent soigneusement fermées et les barbelés toujours bien tendus et hérissés. Ce n'est pas de cette façon que nous espérons sortir d'ici. » Et cette propagande n'a pas la moindre emprise sur les prisonniers. Question vêtements, pas de souci à vous faire, j'ai ce qu'il me faut. Je vous envoie une étiquette rouge. On va donc parler maintenant de la résistance de ces prisonniers de guerre. Qu'en est-il ?
Oui, voilà une autre question importante. Comment des prisonniers de guerre, dans les conditions que nous évoquons, ont-ils pu s'engager dans des formes de résistance, évidemment liées à leurs conditions de vie et d'enfermement? Alors, n'imaginons pas une résistance armée, ça n'a pas de sens. On n'est pas dans un maquis, mais on est dans une forme de refus. Alors, première forme de résistance, elle vient des sous-officiers. Les sous-officiers étaient, de par la Convention de Genève, libres d'accepter un travail ou de le refuser. Alors que les simples soldats étaient obligés de travailler. Si on le leur proposait, les sous-officiers avaient la liberté de refuser. Au départ, certains ont accepté, ne connaissant pas la Convention de Genève de 1929. Lorsque, par de différents circuits, cette connaissance a été portée auprès de ces sous-officiers, certains qui travaillaient ont quitté le travail et ont exigé l'application de la Convention de Genève. Et donc on les a envoyés à Kobierzyn. C'est le cas de Georges Galzin, qui a fait valoir ce qui était son droit et qui, évidemment, en a été sanctionné. Deuxième forme de résistance sur le lieu de travail, car il y a ceux qui étaient obligés de travailler, qui n'avaient pas le choix, le simple soldat, et qui, progressivement, sur l'atelier, sur le chantier, adoptent des formes de sabotage, ou certes mineures, on égare les outils. Si l'on est dans une chaîne de montage, car il y en a qui étaient même dans de véritables usines, vont saboter réellement le travail, ne pas visser complètement une vis, un écrou. Ce sont des choses assez mineures, mais qui expriment bien un refus de ce travail et de cette obligation. D'autres sont allés purement et simplement jusqu'à ralentir les cadences, c'est-à-dire faire en sorte que la chaîne de montage, par exemple, était désorganisée. On essayait un petit peu de le faire dans la mesure où le risque était quand même très grand. Quant à ceux qui travaillaient dans des fermes, tout dépend du lieu. Si l'on est dans une ferme familiale, le sabotage souvent ne s'impose pas. Ce sont des agriculteurs modestes, l'agriculteur allemand est modeste. Il accepte souvent le prisonnier français comme quelqu'un avec beaucoup d'humanité, surtout si le fils est sur le front de l'Est. Il y a là une compréhension de la souffrance. Et donc les prisonniers, généralement, ont une attitude assez, je dirais, humaine à leur tour. Par contre, quand on est dans des grands domaines, de Prusse notamment, ou de l'Est, là le sabotage du travail apparaît dans la nourriture par exemple insuffisante que l'on donne aux bêtes, dans le travail agricole que l'on accomplit mais à moitié, dans la façon impropre que l'on a de traiter les semences, les pommes de terre et autres. On essaie même de détruire des denrées agricoles en vue de saboter la production agricole allemande. Alors, c'est pas évidemment des actes de résistance qui peuvent être comparés à d'autres, mais c'est leur forme à eux, ce fut leur choix d'exprimer ce refus et de ne pas se plier aux injonctions, évidemment, de leur geôlier.
Comment s'est passé leur retour à ces prisonniers de guerre et à quelles difficultés ont-ils été confrontés ?
Alors là encore, tout dépend des lieux où se trouvait le stalag. et des conditions dans lesquelles la libération s'est déroulée. Il faut savoir que la plupart des stalags, dans la partie ouest de l'Allemagne, ont été exposés au bombardement, comme les villes allemandes, comme les usines. Et certains morts parmi les prisonniers sont dus à des bombardements alliés, pas à des erreurs, mais à des effets collatéraux, dirions-nous aujourd'hui, de ces bombardements. Souvent, la liberté est venue presque par accident. Ce sont les armées alliées à l'ouest, anglaises, américaines et de la France libre, qui vont entrer en contact. Et certains ont vu arriver des troupes et se sont libérés, je dirais, par eux-mêmes. On est dans la confusion extrême d'une Allemagne qui est écrasée de bombes, qui est sur le point de s'effondrer, et où les règles habituelles du fonctionnement administratif, militaire ou autre est détruit. Donc il y a eu parfois donc ces libérations impromptues au hasard d'une rencontre, notamment. Il y a ceux qui se sont évadés, car là les conditions étaient favorables. Il y a ceux qui ont pu s'évader lors des transferts de stalags, car dans certains endroits, les Allemands ont tenté, comme ils l'ont fait pour les camps de concentration, de déplacer les prisonniers à pied, en longue colonne, et certains ont profité du désordre ambiant, et surtout du fait, que l'on oublie parfois de signaler, que les gardiens ont changé. Les gardiens allemands ne sont plus des soldats. Les jeunes soldats fiers, arrogants et brutaux ont été mobilisés pour les fronts, pour les derniers combats. Les gardiens qui les remplacent, ce sont des vieux, ce sont des territoriaux, des réservistes, des gens qui ont fait 14-18, qui n'ont plus confiance dans cette Allemagne ou qui même peut-être souhaitaient qu'elle s'effondra. Donc ces vieux gardiens n'ont plus la capacité de s'opposer à des prisonniers qui prennent leur liberté. Et à l'Est, ça a été un petit peu plus compliqué. Les troupes soviétiques qui libèrent les camps de prisonniers, comme elles libèrent certains camps de concentration ou d'extermination encore en l'état, vont se méfier de ces prisonniers français, ou de toute autre nationalité d'ailleurs, parce qu'ils leur reprochaient de ne pas être de bons soldats, puisqu'ils étaient prisonniers. Et pour cela, la libération a été tardive, puisque les Russes, les Soviétiques, souvent les regroupent, les ont gardés quelques semaines, voire quelques mois, ont fait des enquêtes, se sont bien informés qu'ils n'avaient pas de collaborateurs, de supposés collaborateurs. Et pour ces prisonniers français, la liberté n'arrivera que quelques mois plus tard, juin-juillet 45, et se fera par l'Ukraine, par la Crimée, et ils reviendront, eux, par bateau, à travers la Méditerranée. Alors que les autres ont pris des trains, ou s'ils sont rapatriés sanitaires, ont été ramenés par avion. Arrivant dans notre pays, l'accueil n'est pas toujours à la hauteur des souffrances consenties. C'est vrai que, à Paris notamment, les trains de prisonniers de guerre sont en concurrence avec les trains de déportés politiques, qui eux sont dans un état encore plus dévasté. Ils sont en concurrence avec les déportés raciaux. Et c'est vrai qu'ils ont, ils le disent tous, ont eu l'impression qu'on ne les percevait pas par rapport à ce qu'ils étaient, mais presque avec un reproche, avec une sorte un petit peu de gêne. Et souvent, ils ont préféré garder le silence et regagner lentement leur village d'origine, d'autant plus qu'il y a toujours eu de suspicion à leur égard. Et souvent, cette suspicion les a conduits, suspicion de s'être mal battus, alors que l'on sait que c'est faux. Suspicion d'avoir passé des années plutôt tranquilles en Allemagne, alors qu'on sait que c'est faux, à part quelques très rares exceptions. Et donc, ils ont préféré souvent garder le silence. Et je crois que cette émission doit permettre de se replonger dans une histoire, une autre histoire de victimes de la Seconde Guerre mondiale. Histoire que l'on peut aujourd'hui, par des ouvrages, par des synthèses tout à fait remarquables, que l'on peut connaître et apprécier à sa juste valeur.
Justement, vous allez peut-être nous donner quelques indications bibliographiques.
Oui, alors il y a un livre d'histoire écrit par un universitaire, Yves Durand, qui a écrit chez Hachette « La vie quotidienne des prisonniers français dans les stalags et les oflags ». C'est un ouvrage dans la série « Vie quotidienne chez Hachette », facile à trouver et remarquablement agréable à lire sur un sujet aussi douloureux, très, très agréable. Un deuxième ouvrage, il est avéronnais, ce sont les mémoires de prisonniers écrits par Célestin Lavabre, qui est ouvrage édité à Rodez au début des années 80. Célestin Lavabre est un prêtre avéronnais, né à Vezin, qui a été à Rodez et qui a connu évidemment la guerre en tant que mobilisé, qui a été prisonnier, qui s'est évadé deux fois et qui a été donc interné à Ravaruska. Et cet ouvrage-là est important parce qu'il décrit les conditions même de ce camp. Et puis il y a un ouvrage qui est certes romancé, mais qui est historiquement exact, c'est celui de Francis Ambrière, avec un titre curieux, « Les grandes vacances ».
Ah oui.
On peut le retrouver dans la collection des livres de poche. Et Ambrière, lui aussi, a connu Kobierzine. Et quand il décrit la vie des prisonniers, en fait, c'est autobiographique, même s'il y a une part romancée. Et je vous signale aussi que les lettres qui ont été lues, ces courts extraits, font partie d'un ensemble de lettres originales et originelles, donc elles sont tout à fait conservées à la Maison de la Mémoire de Sainte-Afrique, où l'on peut aussi sans doute retirer le témoignage de Georges Galzin sur DVD, puisque Georges Galzin est toujours en vie et nous a permis évidemment d'enregistrer et de diffuser sa propre histoire de prisonnier de guerre.
Merci beaucoup Henri Moisé. Au revoir.
Au revoir. Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.
Point d'histoire.